Bonsoir, désolé du retard, c'est ça. Donc, on a assisté à deux sorties de route. Le chauffeur a oublié de laisser quelqu'un à l'aéroport et donc on a dépassé l'aéroport de 10 minutes, on est revenu. Et ensuite, on s'est fait arrêter 10 minutes sur le bord de la route par un policier, je ne savais pas pourquoi, pendant 10 minutes, jusqu'à ce que les limousines passent tranquillement, 50 km/h, et qu'on se mette derrière jusqu'à Ottawa. Voilà. Donc, je pense que Ottawa m'en veut. Peut-être pas autant que moi, je lui en veux. Mais bon, on est là. Je suis très content de vous voir. Merci de votre patience. Si j'ai mes diapos, qui est la dernière étape de ce parcours de combattant, on va pouvoir commencer. Juste par curiosité, combien il y en a qui connaissent le cerveau à tous les niveaux, le site en question que je rédige depuis une douzaine d'années? Personne? Ah, OK. Oui, vaguement, OK, mais pas la majorité, d'accord. OK. Je vous présenterai mon plan dès qu'il va apparaître. Et ça, c'est la dernière étape, c'est mettre le truc à l'endroit. Ça sert. Non, mais moi, j'y crois pas tant que le truc n'est pas à l'endroit. On ne veut pas te mettre de pression, mais tout tient entre tes mains. Non, mais dans l'exposé, je parle d'un test où il faut suivre le contour d'une étoile en regardant dans un miroir. Tantôt, je vais vous parler de ça. C'est assez difficile parce que tout est inversé. Alors, peut-être que je vais devoir faire la même chose. Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire en attendant? Évidemment, moi, j'avais préparé 1 heure. Je pensais que c'était comme 1 heure. Donc, j'ai énormément de diapos. Je vais essayer d'abréger puis de faire 145 minutes, 50 minutes. Non? Vous en voulez pour votre argent? Moi, je ne demande que ça. Hein? Moi, mon format, là, j'ai donné une formation à l'Université du Troisième Âge cet automne. C'était 16 heures. Puis, j'en ai fait une formation au Cégep Garneau au mois de juin passé. C'était 15 heures. Fait 15-16 heures pour donner une petite idée du fonctionnement du cerveau, comment ça marche. Je trouve que c'est un peu le format minimum. En une heure, bon, on va papillonner. Je vais essayer de vous donner un peu une saveur, la saveur un peu de certaines choses. J'avais une diapo d'un puzzle pas fini, donc c'était pour montrer que j'ambitionne pas de vous montrer le paysage au complet, mais simplement des petites touches impressionnistes. En fait, bon, on peut commencer. En fait, je vais vous parler. Le site Le cerveau à tous les niveaux est conçu en niveau d'organisation, d'où le nom. Il y a deux types de niveaux. Il y a les niveaux d'explication, c'est-à-dire que tout dans ce site est expliqué à 3 niveaux de difficulté croissants, débutant, intermédiaire et avancé. De sorte que c'est vous-même qui allez voir, puis si vous ne comprenez pas, vous commencez au niveau débutant, donc vous irez voir ça. C'est facile à trouver, hein? Vous tapez le mot « cerveau » dans Google, puis c'est le premier ou le deuxième qui sort. On est en compétition avec Wikipédia, mais je suis quand même toujours content de dire ça. Et l'autre boîte de navigation du site que vous allez voir en haut, c'est la boîte des niveaux d'organisation, parce que le site est divisé en 5 niveaux d'organisation, moléculaire, cellulaire, cérébral, psychologique et social. De sorte que, parce que quand il se passe quelque chose dans le cerveau, hein, il se passe toujours quelque chose à plusieurs niveaux en même temps. On a des neurotransmetteurs qui sont émis, on a des circuits de neurones qui s'activent, on a des régions au niveau macroscopique dans le cerveau qui sont impliquées. On a ce que ça nous fait, nous, subjectivement, donc d'avoir une émotion ou d'avoir un comportement. Et on a aussi différentes personnes, différents cerveaux qui interagissent au niveau social. Donc, c'est un peu ça que le site veut saisir. Et donc, le plan de ce soir, si vous voulez, le parcours que je vais vous montrer dans un instant, probablement, on y croit toujours, c'est un parcours où on va partir du niveau moléculaire et cellulaire dans le très petit, et on va tranquillement monter les échelons, on va monter au niveau cérébral, on va parler du caractère dynamique du cerveau, on va parler un peu de la complexité des réseaux de neurones, et on va regarder ensuite au niveau du corps, en fait, les interactions entre le cerveau et le corps. Hein, le cerveau, ça ne flotte pas tout seul dans un éther, c'est relié à un corps. Puis on pense pas seulement avec notre cerveau, on pense avec notre cerveau et notre corps, situés en plus dans un environnement. Puis ça, c'est la dernière partie, c'est que cet environnement-là, pour les humains, qui sommes une espèce très sociable, l'environnement principal, c'est les autres. Alors, on va essayer donc de partir du moléculaire puis de remonter jusqu'au social. Oh, ben, je peux peut-être la faire par cœur, finalement, sans diapo. C'est moins le fun pour vous. Ouais. Après, on va les faire en accéléré. En fait, je voulais commencer parce que... Oui, allez-y. Oh, mais c'est parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de diapos. Puis il y a un petit problème de focus aussi qui va sûrement être réglé. Mais moi, je peux vous continuer à vous jaser un peu en attendant. Prends ton temps. Non, mais j'ai fait beaucoup de conférences cet automne dans des cégeps surtout, puis je ne sais jamais à quoi m'attendre. Hein. En termes de quantité de personnes, ça varie de 500 à 12. En termes de setup, ça peut être dans une classe comme dans un amphithéâtre immense. Mais on fait toujours avec, puis c'est le fun. On fait toujours par... quand je demande aux gens qu'est-ce que vous aimeriez comprendre, connaître à propos de votre cerveau, ce qui ressort beaucoup, c'est comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est sûr, c'est normal, c'est légitime, on aimerait savoir un peu mieux comment ça fonctionne. Mais moi, j'ai souvent le goût, avec un tantinet de provocation, de dire, mais j'ai une autre question qui serait peut-être plus fondamentale, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert un cerveau? À quoi ça sert un système nerveux en général? Puis pour répondre à cette question, ben, on peut y répondre d'une première façon un peu triviale, de dire, ben, un cerveau, ça sert à tout, hein? Ça sert à tout. Tout ce qu'un humain fait, il y a des activités cérébrales qui sont associées. Manger, dormir, faire du vélo, pitonner sur un écran, parler, même être dans la lune ou dormir. Il y a énormément d'activités cérébrales qu'on connaît associées à des activités comme, en anglais, ce qu'on appelle le « mind wandering », être dans la lune et puis dormir. C'est complexe, le sommeil, le cerveau fait beaucoup de choses. Donc, le cerveau sert à tout dans un premier temps. Mais si on veut s'intéresser aux causes ultimes, aux causes lointaines de la raison d'être des systèmes nerveux et des cerveaux, il faut remonter à l'origine, hein. Il faut avoir une perspective évolutive. Il faut donc regarder un peu comment ça a commencé, non seulement les systèmes nerveux, mais la vie. Alors là, je vais vous montrer tantôt des petites diapos sur une ou deux sur les origines de la vie pour montrer simplement qu'à un moment donné, il y a 3,8 milliards d'années, on nous dit que des petites molécules, des petits acides aminés ont commencé à s'assembler en protéines et puis que, surtout, des lipides, hein, des graisses, ont formé une espèce de membrane cellulaire, hein, la membrane de nos cellules, c'est une espèce de ballon en lipides, et qu'à l'intérieur de ça, ça crée une espèce de microclimat, en fait, qui est propice aux réactions enzymatiques, qui crée une espèce de... qui facilite les échanges entre les macromolécules. Et donc, une cellule, la moindre cellule, il y a plus forte raison, les cellules d'aujourd'hui, les eucaryotes, hein, nos cellules avec un noyau, c'est extrêmement complexe. Des fois, je montre une charte de biochimiste, là, juste les réactions enzymatiques dans une cellule, là, c'est des centaines de molécules qui coupent d'autres molécules, qui se font couper, qui font des boucles. Et tout ça doit se maintenir dans cet état-là de complexité, dans un environnement qui l'est beaucoup moins. Alors là, j'ai une slide où je montre des planètes avec une belle cathédrale et puis une ruine à côté, simplement pour dire qu'il y a un principe en thermodynamique qu'on appelle l'entropie, hein, la croissance du désordre. Et dans l'univers en général, plus les formes d'énergie tendent à se dégrader. Ce qui fait qu'une cathédrale va donner un tas de ruines 400 ans plus tard, et puis le tas de ruines va pas donner une cathédrale 400 ans plus tard. Bon, vous comprenez le principe. Alors, une cellule, ça doit se maintenir dans un état très organisé, dans un environnement qui l'est beaucoup moins. Pour ça, les deux grands règnes du vivant, les plantes et les animaux, vont y parvenir de deux façons différentes. Hein. Les plantes, elles ont cette molécule de chlorophylle qui leur permet d'utiliser directement l'énergie du soleil et, avec un peu de gaz carbonique, un peu d'eau, vont constituer leurs propres composants. Les animaux, c'est un petit peu plus compliqué. On n'a pas cette molécule de chlorophylle-là. Les animaux vont devoir se déplacer, c'est ça, trouver leurs ressources dans l'environnement. D'abord, percevoir l'environnement, et ensuite, dans un laps de temps assez court, en termes de secondes, se déplacer. Et c'est ça qui va être fondateur des systèmes nerveux. Cette nécessité-là de percevoir l'environnement et de s'y déplacer assez rapidement. Justement au moment où... Merci. justement, au moment où j'avais un blanc, sauvé par... sauvé par... Alors donc, c'est ça, le cerveau à tous les niveaux, vous irez voir. Là, c'est... Les boîtes de navigation en question sont en haut. Et puis, il y a comme ça différents niveaux d'organisation. Et donc, le plan d'aujourd'hui, j'ai mis des mots, j'ai mis des phrases. Ça correspond plus ou moins à, au niveau, mais on va avancer comme ça. D'où venons-nous? Des réseaux de neurones distribués qui oscillent de manière dynamique. On va un peu essayer de définir tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ce vieux cerveau-là? Que sommes-nous? Et le fait que penser implique le corps et le fait d'être situé dans un environnement, c'est un peu ce que je vous ai raconté. Alors là, je vais faire vraiment un fast-forward parce que ce que j'ai dit, on va dire que c'est l'intro puis qu'on n'a pas besoin de support visuel pour ça. Voilà, on était rendu là. Je vous présente la plysie, qui est un animal que j'affectionne particulièrement parce que j'ai passé 2 années de ma vie à l'étudier quand j'ai fait ma maîtrise. C'est un mollusque marin qui est un animal qui a un système nerveux assez simple, hein, quelques ganglions, quelques amas de neurones. L'animal a 20 000 neurones en tout. Mais la plysie, c'est déjà chez cet animal-là, on observe l'apparition de neurones sensoriels qui partent de la peau et qui font des connexions aux neurones moteurs, de sorte que l'animal, quand on le touche, a un réflexe de retrait. Il se protège. Et il y a aussi des neurones qu'on voit apparaître, qu'on appelle interneurones, parce qu'ils sont entre les neurones sensoriels et moteurs, et qui sont là déjà pour commencer à moduler ce réflexe, pour lui donner de la souplesse. Et donc, ça marche avec des petits neurotransmetteurs, comme on va parler tantôt. Donc, pendant des centaines de millions d'années, il y a eu ça. Il y a eu des neurones sensoriels et des neurones moteurs. Et ce qu'on remarque tout le long de cette chaîne, du neurone sensoriel aux interneurones, aux neurones moteurs et jusqu'aux muscles, ce qui déclenche l'action, comment tout ça se fait finalement au niveau cellulaire, on va en parler vite tantôt, c'est toujours par l'entrée d'ions, de petites molécules chargées et des ions positifs en plus. Je vous ai mis cette slide-là parce que j'ai pogné un article. Vous ne pourrez pas dire que je ne suis pas à jour dans mes références. On est le 10 décembre. Et il y a un très bon article qui est paru donc, il y a quelques jours et qui s'appelait « From Membrane Excitability to Metazoan Psychologies ». Donc, c'est de l'excitabilité membranaire à la psychologie des métazoaires, donc des organismes à plusieurs cellules. Et là, il y a un des auteurs, c'est Antonio Damasio, peut-être certains le connaissent, il est assez connu pour ses travaux sur la conscience, entre autres, et là, il a ouvert un nouveau laboratoire et il travaille un peu sur qu'est-ce qui est, il appelle ça en anglais, c'est, je ne sais pas si ça se dit en français, sentience, la sentience, hein, la chose qui, dans l'environnement, la première chose qui donne un signal d'alarme ou qui alerte finalement un organisme, qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui pourrait le concerner. Et donc, j'épiloguerai pas là-dessus. On va continuer. Donc, beaucoup de millions d'années plus tard, on arrive au cerveau humain, puis on se rend compte qu'on est construit sur le même modèle. Hein? On a des régions sensorielles visuelles dans le cortex auditif, du toucher. On a une région motrice. Puis on a toute la région en grise, la majorité de notre cortex. Hein, notre cortex, chez l'humain, le cortex, c'est 80 % du poids de notre cerveau. C'est vraiment la partie qui a pris beaucoup, beaucoup d'expansion chez les primates et chez l'humain en particulier. Et donc, on a énormément d'interneurones, pour revenir à notre bonne vieille aplysie, là. On a énormément de neurones qui se connectent entre eux. C'est ça qui va faire qu'on va être moins soumis, si vous voulez, aux contingences sensorimotrices. On va pouvoir se détacher un peu de ça, puis faire des scénarios, faire des prédictions, être créatif et tout ça. Ça, c'est justement pour montrer du rat au chat à l'humain comment nous, on a de moins en moins de superficie finalement accordée aux aires sensorielles. Et donc, si on rentre dans l'organe en question, on se rend compte que si on zoome sur l'écorce, sur le cortex est foncé. Pourquoi? Parce que il y a des neurones. Il y a énormément de neurones dans le cortex. Les neurones, c'est quoi? Ce sont les cellules du cerveau. Hein? Cellules du cerveau, les neurones, c'est une cellule comme une autre, avec un noyau, des mitochondries, toutes sortes de choses à l'intérieur. Mais il y a deux particularités. Hein? Il y a des espèces de branches, des espèces de cheveux qu'on appelle les dendrites, qui vont surtout recevoir le signal nerveux d'autres neurones. Et il y a l'axone, qui est un prolongement souvent unique, qui va, lui, aller porter le signal beaucoup plus loin. Parce que la fonction des neurones, hein, c'est de communiquer des signaux. Alors ça, c'est une première image de neurone qu'on a eue il y a 120 ans à peu près. Un monsieur Caral, un Espagnol, qui avait réussi à colorer avec une coloration argentique là, certains neurones.
Je passe les détails. Cajal avait émis une espèce de théorie qu'on appelle la théorie du neurone qui postule plusieurs choses, dont le fait que le neurone est l'unité structurelle de base du système nerveux. Et c'est pas vrai, en fait. C'est plus vrai. On connaît une autre grande famille de cellules dans le cerveau qu'on appelle les cellules gliales, qui sont connues depuis presque aussi longtemps que les neurones, mais on pensait que ça avait des fonctions un peu de nutrition, mais on se rend compte depuis 10-20 ans qu'ils ont des fonctions d'intégration puis de communication très, très importantes et complexes. Je voulais vous en parler. On a 85 milliards de neurones, nous, les humains, dans notre cerveau. On a 85 ou 86 milliards de cellules gliales aussi. Quels sont ceux qui ont déjà entendu parler de cellules gliales dans la salle? Quand même. Il y a des maladies associées à ça, hein, sclérose en plaques. Et donc, c'est des neurones, c'est des cellules qui n'émettent pas de potentiel d'action, mais qui possèdent des récepteurs, émettent des neurotransmetteurs comme le glutamate. Finalement, ont beaucoup de choses en commun avec les neurones et vont former, on les voit ici en rouge, les neurones sont en vert, vont former un véritable réseau très intriqué avec les neurones et vont pouvoir, par exemple, synchroniser l'activité de neurones, de vastes populations de neurones, ce qui va avoir des effets fonctionnels importants, comme on va le voir tantôt. Bon, je passe là-dessus. C'était simplement, je voulais vous en parler parce que, donc récemment, on a trouvé que les astrocytes contribuent aux oscillations gamma dans le cerveau, ce qui est quand même quelque chose d'assez gros parce que là, ça joue vraiment dans ce qu'on attribuait de plus fondamental aux neurones, les oscillations, on va en parler tantôt. Revenons à nos bons vieux neurones. Simplement pour rappeler les deux mécanismes par lesquels ils communiquent. Hein. Il y a une partie, on voit deux neurones ici, il y a une partie électrique. Hein. Dans la conduction nerveuse, c'est la partie le long de l'axone. Il faut se rappeler qu'à l'intérieur des neurones, il y a des petits ions, il y a beaucoup plus d'ions négatifs. Donc, on est à peu près à moins 60 millivolts par rapport à l'extérieur. Ce qui va arriver, c'est que dans la membrane de l'axone, il y a des pores, il y a des canaux. Et, on ne perdra pas de temps sur les animations, j'en ai juste deux, trois. Imaginez que les plus rentrent ici, puis ça devient plus positif ici. Et là, ça se transmet. Ensuite, ça devient plus positif ici. C'est une espèce de changement de polarité très rapide. Qui se propagent comme des dominos qui tombent les uns sur les autres le long de l'axone. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'influx nerveux. Je passe très vite là-dessus. Ça, vous pouvez trouver ça dans tous les bons textbooks. C'est simplement pour rappeler qu'on le symbolise souvent comme un pic parce que, justement, il y a un effet de seuil. Il faut atteindre un certain seuil. Et quand on atteint ce seuil, le changement de polarité, c'est un phénomène tout ou rien. Donc, on va garder cette amplitude-là tout le long de l'axone. C'est très bon pour franchir de longues distances. Il n'y a pas de perte de signal, mais c'est assez rigide. Tu ne peux pas moduler ça vraiment beaucoup. Donc, tout ça, c'est à cause de ces petits canaux-là donc, dont on parlait abondamment dans l'article récent dont je vous ai parlé. Alors là, il y a trois neurones qui font des connexions entre eux. On voit qu'ils communiquent, on enregistre dedans, puis on voit que ce que fait un influence l'autre. Et donc, un neurone va recevoir comme ça des dizaines, des centaines, voire des milliers de connexions. Et chaque neurone devient une espèce d'intégrateur qui fait la somme des excitations ou des inhibitions, parce qu'un neurone peut inhiber un autre neurone peut réduire la probabilité de décharge d'un potentiel d'action. Fait que ça se compile tout, ça s'additionne tout. Puis dans la région ici, au début de l'axone qu'on appelle la zone gâchette, si c'est au-dessus du seuil, on envoie un potentiel d'action. Donc, c'est comme ça que nos 85 milliards de neurones se comportent. Chacun peut faire 2, 3, 4 000, 10 000 connexions avec d'autres neurones. C'est dire la combinatoire impressionnante que ça donne. La plupart des neurones, en plus, ont une activité spontanée. Ils émettent spontanément des potentiels d'action. Et en plus, chacun a un peu sa personnalité. Chaque groupe de neurones a son pattern de décharge. Ça peut faire des potentiels d'action isolés, ça peut faire des bursts, comme on dit, des bouffées. Voilà un peu pour la conduction électrique. Et là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a au niveau des connexions, justement. C'est la partie chimique. La partie chimique de la transmission nerveuse, parce que quand deux neurones font une connexion, ils ne se touchent pas tout à fait. Hein? Il y a une mince fente qu'on appelle la synapse, qui est représentée ici. Alors, quand l'influx nerveux arrive au bout de l'axone qu'on voit ici, il libère des petites molécules en rouge ici qu'on appelle les neurotransmetteurs, par fusion là, de membrane ici. Et tout de suite, les neurotransmetteurs traversent la fente et vont se fixer après une grosse molécule, une protéine, qui est de l'autre côté, qu'on voit ici, qui est fiché finalement dans la membrane cellulaire, à travers la membrane. Et en se fixant, c'est là qu'ils vont changer la forme du canal, changer la forme de la grosse molécule, et ça va créer une ouverture au milieu Et là, nos petits ions sodium puis potassium vont pouvoir passer au travers de ça. Et là, si c'est suffisamment important comme dépolarisation, comme quantité de neurotransmetteurs, ça va dépolariser la membrane ici. Et si c'est suffisant au niveau de l'axone, ça va faire repartir un potentiel d'action. On va laisser tomber les animations. Ça montrait simplement les petites boules vertes qui tombent, qui se fixaient ici puis qui laissaient entrer du sodium. Mais je vais quand même vous parler de ce qui arrive quand on stimule une voie à répétition. Quand on stimule une voie à répétition, une voie nerveuse, c'est par exemple quand on se répète quelque chose, eh bien, on va réveiller un autre type de canal. On va, par les stimulations répétées, dépolariser beaucoup ici, dans cette région-là. Ça, c'est l'autre neurone. Hein. On appelle ça une épine dendritique. C'est le bout d'un dendrite. Eh bien, il y a un autre type de canal ici qu'on appelle NMDA, qui est normalement bouché par une espèce de bouchon. C'est un ion magnésium. Et quand c'est suffisamment dépolarisé, le bouchon s'enlève et ce canal-là va être perméable au calcium et non pas juste au sodium. Et quand du calcium rentre dans une cellule, il va produire beaucoup plus d'effets que le sodium seulement. Le calcium va activer des enzymes, par exemple, des calmodulines qui vont, par des réactions enzymatiques complexes, fixer, par exemple, un atome de phosphore ici à l'intérieur des canaux de l'autre type de canal. Et ça, ça va rendre ce type de canal-là plus facilement ouvrable ou plus... les canaux vont rester ouverts plus longtemps. Donc, la prochaine fois qu'il va avoir un influx nerveux qui va arriver ici, là, unique, un petit influx nerveux tout seul, il va comme passer beaucoup plus efficacement parce qu'il va y avoir des traces, il va y avoir des récepteurs phosphorylés qui vont s'ouvrir plus facilement parce qu'à un moment donné, il y a eu une forte stimulation de cette voie-là qui a fait entrer du calcium parce qu'on a enlevé le bouchon magnésium. Bon. Là, on est dans le pas mal petit. Pas mal le plus petit qu'on va être dans la soirée. On va remonter tranquillement. Ça, c'était juste pour vous impressionner, pour vous montrer qu'évidemment, il y a beaucoup de sous-types de canaux. Il y a plusieurs neurotransmetteurs par neurone. C'est toujours plus complexe. Donc, on va remonter, puis on va voir que, donc, comme je viens de le dire, il va y avoir des réseaux de neurones qui vont sélectionner. À mesure qu'on apprend, on va favoriser des connexions nerveuses entre certains neurones et pas d'autres. Et donc, apprendre, la base de notre mémoire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aussi des assemblées de neurones qui ont des connexions privilégiées entre elles, des connexions renforcées. Et se souvenir de quelque chose, c'est réactiver un réseau de neurones comme ça. Ça, c'était dans Nature, il n'y a pas longtemps. C'était pour montrer que quand on pense, par exemple, à Luke Skywalker, il nous arrive aussi de penser au Yoda et à Darth Vader. Et c'est probablement parce que dans l'assemblée de neurones qu'on réactive pour Luke Skywalker, il y en a une partie qui est commune avec Darth Vader. De sorte que c'est un peu comme un feu de forêt. Là. Il y a une assemblée de neurones qui s'embrase et puis là, par contagion, elle va activer une autre assemblée de neurones qui est un peu dans le même genre. Puis c'est comme ça souvent qu'on dit « Attends, je ne m'en souviens pas, mais OK, j'étais telle place, j'ai dit telle affaire. » OK, c'est ça. Donc, on peut comme ça... La mémoire est très associative. Hein? Les réseaux de neurones, il y a des « overlaps », comme on dit en bon français. Et donc, il y a certaines petites capsules comme ça que j'ai saupoudrées dans la présentation pour essayer de déconstruire quelques mythes tenaces. Par exemple, le mythe de la mémoire qui serait comme des tiroirs où on met quelque chose ou un disque dur d'ordinateur, hein, où on irait chercher l'information 10 ans après un disque dur, on y va, puis c'est encore les mêmes zéros puis les mêmes 1. Alors ça se peut pas pour la mémoire humaine. Comme je l'ai dit, la mémoire est forcément une reconstruction parce que c'est tellement plastique que depuis qu'on a vécu la première expérience, nos petites routes se sont modifiées. Nos connexions, selon l'affect du moment aussi, sont différentes. Donc, quand on va le réactiver, on va le réactiver dans un circuit qui est légèrement différent. Donc, c'est forcément quelque chose qu'on reconstruit la mémoire à chaque fois. Une meilleure métaphore pour tout ça, c'est carrément, simplement, la forêt. Quand on se promène dans une forêt, on peut considérer chaque arbre comme un neurone avec toutes les branches qui forment les dendrites. D'ailleurs, il y a un artiste qui s'est lâché lousse, comme on dit, qui a été à fond dans cette métaphore-là. Ça fait partie d'un livre qui s'appelle « Neurocomic ». Et donc, on voit que les dendrites et en dessous les racines, il y a souvent une longue racine là, qui pourrait aller. Là. Donc, c'est aussi complexe que ça. Voilà. Donc, ça clôt un peu la première partie qui était la plus longue, je ne vous le cache pas, là, ça va aller un peu plus vite. On va parler de maintenant de. On va commencer à mettre les, ces pièces-là, qui étaient un peu les blocs élémentaires. On va commencer à remonter le puzzle. Là, on va parler du caractère dynamique du cerveau beaucoup. Parce que le cerveau, ce n'est pas des voies anatomiques figées. C'est quelque chose non seulement qui se modifie donc, au niveau plastique au cours des semaines, des mois, des années, mais c'est quelque chose qui bouge à la milliseconde près, toujours. Donc, quand on enregistre dans un neurone, je vous l'ai dit, on a de l'activité spontanée. Cette activité spontanée-là, elle fait souvent des bouffées comme ça, de sorte qu'il y a de l'activité des silences, l'activité des silences. Et aussi, un certain type de connectivité dans le cerveau qu'on a souvent, c'est l'espèce de boucle de rétroaction, souvent inhibitrice, qui fait en sorte que le neurone excitateur est on, il fait des potentiels d'action, le neurone inhibiteur l'inhibe, ça fait un silence, finalement, bon, le neurone excitateur est inhibé, il arrête d'exciter l'inhibiteur, bon, en tout cas, vous comprenez le principe, et là, ça fait des bouffées, des silences, des bouffées, des silences. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand une grande population de neurones fait des bouffées, des silences, des bouffées, des silences, on voit apparaître des phénomènes oscillatoires dans le cerveau. Les ondes du cerveau, on va en parler, c'est des potentiels d'action qui font feu, des silences, et ça fait des dépolarisations globales, des hyperpolarisations comme ça. Dans un petit réseau de 30 neurones, dans un petit ganglion de homard, on peut trouver, par exemple, deux types d'oscillations différents qui se font compétition puis qui ont lieu juste avec 30 neurones. Un article assez récent montre que c'est très bien conservé chez les mammifères. Du rat, pensant par le lapin, le chat, le chien, le primate, on retrouve à peu près les mêmes types d'oscillations. Alors, on leur a donné des noms, alpha, bêta, selon leur fréquence. Hein, ils peuvent être à haute fréquence, ça peut aller jusqu'à 100, 200, 300 Hz, puis ça peut être 0,1 Hz, donc 1 à toutes les 10 secondes ou je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Et donc, cette activité-là, elle peut être irrégulière. On l'enregistre donc avec l'électroencéphalogramme, par exemple, sur le scalp. Et elle peut être aussi synchronisée. Donc, il y a deux phénomènes. Il y a les oscillations comme telles, puis il y a le fait que ces oscillations-là peuvent être en phase. Les pics vont arriver vis-à-vis des pics pour différentes populations. Ce qui fait, par exemple, donc c'est des phénomènes différents, mais qui sont toujours très liés. Alors, il y a des livres qui s'écrivent là-dessus. On pourra en parler pendant facilement un cours de 15 heures juste sur les rythmes. Mais c'est une bonne façon, nous disent les spécialistes, que le cerveau a trouvé pour synchroniser d'une façon économe des grandes populations de neurones. Ils n'ont pas besoin de tout se dire « qu'est-ce que tu fais, toi? On se met-tu ensemble? » Non, on pogne un rythme. Et puis, si l'autre population a le même rythme, on met les phases ensemble et puis là, on peut avoir de l'activité neuronale synchronisée dans de vastes territoires du cerveau pendant plusieurs secondes, ce qui peut correspondre à des choses comme l'attention, des phénomènes comme ça. Donc, ça peut se multiplexer comme ça. Il peut y avoir des petites fréquences sur des grosses fréquences. À quoi ça peut servir? Bien, ça peut servir... Vous savez que dans le cerveau, quand on voit un objet comme une valise verte ou un chapeau bleu, la couleur, la forme, l'emplacement dans l'espace, ce n'est pas traité au même endroit dans le cerveau. Dans le cortex visuel en arrière de la tête, là, on a beaucoup, beaucoup de régions. Des régions pour la couleur, des régions pour les lignes, des régions pour les angles. Et donc, comment on fait pour nous percevoir une valise verte en haut à gauche quand la couleur verte est analysée ici, l'emplacement est analysé ici dans le cortex, la forme est analysée là? Comment on fait pour avoir une perception unitaire des objets? Eh bien, c'est probablement par la synchronisation, parce que, par exemple, les populations N1, N2 et N3 vont faire feu selon un rythme donné en synchronisant leur activité. Et le fait que ce soit synchronisé fait en sorte, probablement pour nous, qu'on ressent ça comme un seul et même objet. Alors que ici, par exemple, le chapeau, ça aurait de l'activité synchronisée, mais pas en phase ou avec un autre rythme. Donc, c'est un langage. Hein, il y a plusieurs éléments comme ça. Ça peut servir aussi à créer des fenêtres temporelles où certains phénomènes peuvent être facilités ou, au contraire, rendus plus difficiles. On va passer rapidement là-dessus. Dépendamment des fréquences, on a mis en évidence ici en 2009 que dans l'hippocampe, certaines fréquences correspondent à un souvenir remémoré par l'animal versus une fréquence plus élevée à une situation qui est vécue en ce moment. Donc, les mêmes neurones, selon la fréquence où ils font feu, peuvent avoir un rapport avec le présent ou le passé. Alors, ah oui, ça c'est ma phrase de transition. Je vais prendre une gorgée de verre, une gorgée d'eau pour vous la dire. Alors, donc, ces couplages en assemblée fonctionnelle transitoire rendus possibles par des oscillations, comme je viens de le dire, se produisent non seulement dans des structures cérébrales données, comme l'hippocampe, mais à l'échelle entière des cerveaux. Donc, dans l'ensemble du cerveau, ce qui est quand même des très grandes distances, là, 10 cm là, pour un neurone, là, c'est très loin, eh bien, on connaît de plus en plus beaucoup, beaucoup de régions qui sont habituées de travailler ensemble, en fait. On appelle ça des régions couplées fonctionnellement. On les voit souvent adopter le même rythme ensemble, ces régions-là. Puis on commence à les connaître. Hein. On a le réseau du contrôle, le réseau par défaut. Ça, c'est quand on ne fait rien. Quand on est dans la Lune, il y a des régions particulières du cerveau. Mais on n'est pas vraiment dans la Lune. Hein. Quand on pense à rien, on pense à notre vie un peu. On pense à ce qu'on va faire tantôt. Et justement, ce sont des régions impliquées dans la mémoire biographique. On a toutes sortes de régions, l'attention, le réseau dorsal d'attention, comme ça qu'on commence à connaître. Et il y a toutes ces histoires qu'on entend parler depuis peut-être 5-10 ans maintenant, le connectome, hein, par analogie au génome, c'est-à-dire essayer d'établir la carte des grandes voies nerveuses du cerveau. Il y a bien de l'argent qui est mis là-dedans. Il y a des grosses machines d'imagerie cérébrale qui servent à faire de l'imagerie fonctionnelle, de connectivité fonctionnelle. Mais il y a aussi des machines d'imagerie de diffusion. Ça fait des belles images de plus en plus précises où on peut voir vos grandes voies nerveuses. On vous met vous dans un scan, puis on peut voir quels sont vos grands faisceaux de fibres nerveuses. C'est un principe très, très intéressant. Ça donne des belles images qu'on aimerait mettre dans notre salon en laminé. Et ça, c'est les grandes routes du cerveau. Il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les petites routes au bout. Il y a toutes les petites routes qui sont très, très variables, très plastiques. Alors, l'analogie avec le réseau routier tient la route, si vous me permettez le jeu de mots, parce que, dans le fond, ce qu'on fait avec ça, on établit le réseau routier. Et ici, ce qu'on fait, c'est que, comme quand on demande un trajet à Google, il va nous dire qu'il y a comme 2-3 routes possibles. Fait qu'avec cette technique-là, on essaie de voir quelle route l'influx nerveux préfère finalement dans la réalité. Donc, on a les systèmes routiers, puis on a les routes qui sont les plus utilisées. Donc, un autre neuromythe à oublier, c'est qu'il n'y a pas de centre dans le cerveau. Il n'y a pas de centre de la joie ou de centre de quoi que ce soit. Il n'y a pas de petite cloison. Il n'y a même pas de boss. Hein, Gazzaniga, dont on va peut-être parler rapidement tantôt, dit « There's no boss in the brain ». Il n'y a pas de processeur central. Tout est extrêmement décentralisé, extrêmement en parallèle. La moindre tâche implique 5, 10, 15, 20 régions qui vont modifier leur activité, tantôt l'augmenter, tantôt la diminuer. En fait, une très bonne métaphore pour ça, c'est la symphonie. Hein? Dans un orchestre symphonique, chaque instrumentiste a sa partition, puis il joue sa petite partition. Puis tous les instruments ensemble, ben, ça fait quelque chose d'harmonieux quand le chef d'orchestre est bon, autrement dit, quand le cerveau va bien. Eh ben, c'est un peu comme ça dans le cerveau. C'est une symphonie d'activité permanente et c'est très dynamique, comme une pièce musicale. À chaque seconde ou demi-seconde, il y a des choses qui changent. Quand on voit j'ai mis ça parce que quand on voit des belles photos d'imagerie cérébrale comme ça, avec des belles couleurs, là, on est porté à penser qu'il ne se passe rien ici. Là. Mais c'est oublié que cette image-là, par exemple, qui est une région qui correspond à la reconnaissance des mots quand on lit, eh bien, elle a été obtenue en soustrayant quelqu'un qui est en train de fixer des lignes qui ne forment pas des mots, des simples lignes sur une feuille, versus la même personne qui voit des mots. Alors, on soustrait l'activité du cerveau qui est ça, de cette activité-là qui est ça, et on voit à ce moment-là qu'il y a une petite région qui est un peu plus active. Mais l'activité du cerveau, c'est toujours ça. D'ailleurs, donc là, ça, c'est le pire mythe à oublier, le mythe du 10 %. Ça n'a aucun rapport. Il y a tellement de façons de le démolir. J'en ai choisi une ici en vous montrant ça. Ça, c'est une machine qui montre l'activité métabolique des organes du corps. Le cerveau, c'est 2% du poids de notre corps. mais ça consomme toujours à peu près 20 % de l'oxygène qu'on respire, puis 20 % du sang, finalement, du glucose qu'on mange. Donc, c'est un organe extrêmement énergivore pour son poids. Et donc, entre autres, si ce 20 %-là, c'était juste 10 % qu'on utilise, bien, à 50 % on utiliserait déjà tout le sang puis l'oxygène juste pour le cerveau, à 50 % d'utilisation. Donc, bon. Pourquoi c'est si énergivore? Bien, parce que les influx nerveux qui sont constamment produits dans le cerveau, quand les ions sodium entrent dans le neurone, ils entrent très rapidement, sans aucune énergie, ils suivent leur concentration, leur gradient de concentration. Mais une fois qu'ils sont en dedans, on ne peut pas en accumuler comme ça ad vitam aeternam. Il faut les ressortir contre leur gradient. Là, ça prend de l'énergie. Là, il y a des pompes qu'on appelle, qui sont encore des grosses molécules fichées dans la membrane, qui, avec de l'ATP, là, qui vient du glucose, là, vont sortir les ions constamment. Et c'est ça qu'ils consomment constamment. Si on manque d'oxygène 5 ou 10 minutes, là, ça se met à se dégrader. Il y a du glucose. En tout cas, bon, c'est pas le fun. Donc, on en revient à ça. Donc, on a parlé de ça. Maintenant, on peut se demander un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec ce vieux cerveau-là. Pourquoi vieux? Je vais vous le rappeler tantôt. Qu'est-ce qu'on fait, autrement dit, avec cette boucle sensorimotrice-là et tous ces interneurones-là qui sont là chez les primates pour moduler la boucle sensorimotrice? En gros, on fait deux choses. Hein? On approche des ressources et on fuit des dangers. Et quand on réussit à approcher une ressource qui s'avère intéressante et bénéfique, on essaie de retenir comme on a fait. Puis quand on fuit un danger d'une façon efficace, on essaie de retenir notre stratégie. Donc, on va avoir très tôt dans l'évolution des mécanismes de mémoire qui vont s'avérer extrêmement adaptatifs pour ne pas retomber dans nos erreurs tout le temps. Et même donc chez l'aplysie, avec ses 20 000 neurones, on voit apparaître des phénomènes d'apprentissage simples, comme l'habituation. Hein. Si on y touche 10 fois à l'aplysie, au bout de 10 fois, elle dit « bon, ben ça va, j'ai compris, elle ne se contracte plus ». Mais là, si méchamment, tu arrives derrière puis tu y pinces la queue une fois, là, elle réagit. Puis ensuite, tu viens encore lui toucher gentiment une 11e fois. Là, elle réagit fort. Elle s'est sensibilisée. Un peu comme nous, par exemple, qui allons nous habituer à une horloge qui sonne à toutes les heures si l'horloge est chez nous. On ne l'entend plus. Mais là, je ne sais pas, le détecteur de fumée sonne à un moment donné. Là, ça nous fait le saut. La fois suivante que l'horloge va sonner, oh, là, OK, c'est pas le détecteur, c'est correct. Tu sais, ça va nous faire un petit... Mais c'est des vieux mécanismes. C'est des vieux mécanismes qui sont apparus très tôt dans l'évolution qu'on a encore. Puis c'était toute cette série de slides-là, je vais passer rapidement. La mémoire est un instrument de prédiction, évidemment. C'est pas fait pour regarder nos albums photos puis nous trouver comment on était bien beau quand on était jeune. C'est vraiment fait pour prédire. Et donc, chez l'humain, là, je vais passer très vite. Celle-là est bonne quand même. Le chien dit, c'est drôle, à chaque fois que je salive, Pavlov sourit et puis il prend des notes dans son carnet. Comme quoi, ça marche dans les deux sens, le conditionnement classique. Ça marche malheureusement aussi beaucoup par la publicité, tout ce qui nous rentre dans le crâne à longueur de journée. Il y a même Henri Laborie qui disait « Je suis effrayé par les automatismes qu'il est possible de créer à son insu dans le système nerveux d'un enfant. Il lui faudra dans sa vie d'adulte une chance exceptionnelle pour s'évader de cette prison s'il y parvient jamais. » C'est assez fort comme statement, mais ça dit ce que ça dit. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend. En fait, ça, c'est toutes nos mémoires. Bon, les conditionnements opérants, hein, tout ce qu'on fait à longueur de journée sur nos petits ailes machins, là. On agit, on a une récompense. On agit, on a une récompense. C'est très ancien. C'est pour ça que c'est très, très fort comme mécanisme. Bon, ça marche dans la négative aussi. Quand on pogne un ticket, on fait attention. Donc, ça, c'est toutes des vieilles mémoires qu'on appelle implicites. On apprend sans s'en rendre compte. La dernière étant la mémoire procédurale, hein, celle de nos habiletés motrices, aller à vélo, faire nos lacets. C'est toutes des choses qui sont un peu longues à apprendre, mais une fois qu'on le sait, c'est très robuste. Et donc, mais nous, les humains, on parle. Et puis, on a deux types de mémoires qui sont assez récentes évolutivement, qui sont associées à ça, qui sont la mémoire épisodique, hein, celle des événements de notre vie, qu'est-ce qu'on a mangé hier soir, quelle école on est allé quand on était jeune, tout notre parcours de vie. Et aussi la mémoire sémantique, la mémoire du sens des mots, toutes les connaissances qu'on a accumulées durant notre vie. Par exemple, si je vous dis « La mère de Toto a trois fils, Cric, Crac et... » Il y en a qui l'ont eu. La mère de Toto. Non. Cric-crac et Toto. Mais cric-crac-croc... Mais cric-crac-croc, on l'a appris. C'est comme dans nos connaissances. C'est plus facile d'aller chercher cric-crac-croc que de penser « OK, mère de Toto, donc... » Donc, c'est juste pour dire que ces connaissances-là deviennent très, très accessibles. Alors, on a à peu près... On a beaucoup de mémoire, les humains, beaucoup de systèmes de mémoire. Et un type comme lui, qui est mort il n'y a pas si longtemps, nous a aidé beaucoup à comprendre ça, comprendre qu'on en avait. Je vais vous donner un exemple. C'est Henri Molaison, le fameux patient HM. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui, dans les textbooks de psychologie, là. Pendant des années, il a été étudié, ce monsieur-là, parce qu'à 27 ans, il faisait des grosses crises d'épilepsie, puis il se roulait par terre 20 fois par jour, puis ils ont vu que les foyers épileptiques étaient dans l'hippocampe. Fait que là, ils ont fait une double ablation des deux hippocampes. Dans les années 50, on ne savait pas trop à quoi ça servait l'hippocampe. Fait que, du point de vue des crises d'épilepsie, ça réglait le problème. Le seul inconvénient, c'est qu'il ne pouvait pas se souvenir plus que 5 à 10 minutes de son passé, à partir de là. Il n'avait plus de mémoire. Il était amnésique en térograde, en fait, comme on dit. De sorte que, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Memento, là, c'est bien fait, c'est exactement ça. Mais les médecins qui l'étudiaient, par exemple, Brenda Milner, à Montréal, l'a étudié pendant au moins 20-25 ans. À chaque matin, elle devait se présenter. « Bonjour, je suis Brenda Milner, votre médecin. » Parce que lui, il ne s'en souvenait plus. On va vous faire faire un petit test aujourd'hui, M. Molaison. On va vous faire faire la tour de Hanoï. On va vous faire... les règles, c'est que vous devez reconstruire la pyramide de là à là. Oh, j'ai jamais fait ça, mais je vais essayer. Puis là, il le faisait. Puis jour après jour, il s'améliorait. À chaque jour, il disait, « Ah, j'ai jamais fait ça, mais je vais vous le faire. » Même chose pour dessiner là, avec le miroir. Ses temps diminuaient. Fait que là, on s'est dit, OK, lui, il n'a pas d'hippocampe. Il n'a plus la mémoire sémantique ou épisodique, mais il a une mémoire procédurale qui a l'air tout à fait effective. Donc là, on a commencé à comprendre que la mémoire procédurale, c'était une autre mémoire, puis il y avait d'autres structures cérébrales qui étaient associées à cette mémoire-là. Et c'est pour ça que HM l'avait conservée. Donc, bon, je vais dire un petit mot, je ne sais pas si je...
Je ne sais pas si je vais vous entraîner là-dedans.
Oui. Dans les méandres de l'hippocampe. OK. Je ne me fais pas prier quand même. C'est... Parce que c'est intéressant. Je vais parler du prix Nobel de médecine qui a été donné cet automne. L'hippocampe de Rock qu'on voit ici, c'est une structure très, très ordonnée. Hein. Et ça, c'est une coloration qu'on appelle « brainbow ». De Brain et Rainbow. C'est vraiment fascinant. On peut donner plus que 100 teintes différentes. Et donc, le prix Nobel de médecine cette année a été attribué à ces trois personnes-là, John O'Keefe et puis le couple Moser en Norvège, pour leurs travaux de ce que les médias ont appelé le GPS de notre cerveau, hein, l'orientation spatiale. Et ça, ça se passe dans l'hippocampe. En fait, j'ai caché mon... J'ai fait ça dans l'autobus tantôt, je voulais trop accélérer. C'est pas grave, regardez. Il y a O'Keefe, en 70, lui, il a mis en évidence ce qu'on appelle les « place cells ». On enregistrait dans l'hippocampe de rat, puis on le faisait se promener en même temps. Et puis on remarquait qu'à chaque fois qu'il passait à une place, quand il était dans une cellule, cette cellule-là faisait feu. Fait qu'on a dit « Oh, cette cellule-là dit au rat, à un moment donné, s'il est à telle place, il y a une cellule qui réagit fort à cette place-là ». Bon, il y a d'autres types de cellules. En 2004-2005, dans ces années-là, le couple Moser trouve un autre type de cellule, un petit peu à côté, dans le subiculum, à l'entrée de l'hippocampe. Quand on est dans une de ces cellules-là, au début, ce n'est pas évident. Il avait l'air de faire feu un peu n'importe où. Mais à un moment donné, on s'est aperçu que ça formait une grille. Ça formait une espèce de grille hexagonale. On appelait ça les « grid cells » en anglais. Et donc, ce sont des cellules qui forment une espèce de grille. Si on a une cellule, son champ récepteur, mettons la cellule rouge, appelons-la comme ça, son champ récepteur, c'est ça, 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 puis ça. Fait que si l'animal se déplace comme ça dans l'espace, il va activer différentes grid cells qui vont comme peut-être lui faire sentir qu'il s'en va dans une direction. Si à un moment donné, il décide de tourner, il va activer d'autres grid cells. Donc, c'est une espèce de système de navigation à l'aveugle parce que ça va comme, je m'en vais par là, je tourne à 90 degrés, c'est ça qui est perçu par ces cellules-là. Et donc, il y a un mélange des deux pour que l'animal puisse savoir où il est. Il peut utiliser donc les grid cells, mais il peut aussi faire de la navigation à vue, comme on dit, comme disent les marins, c'est-à-dire de voir des indices dans l'espace, parce qu'il y a beaucoup de systèmes sensoriels qui s'en vont vers l'hippocampe aussi. Chez l'humain, qu'en est-il chez l'humain? Eh bien, c'est difficile de mettre des électrodes direct dans l'hippocampe puis nous faire marcher dans un parc. Alors, on a pris parti de certains patients qui attendent encore pour des opérations pour l'épilepsie, qui ont des petites électrodes dans le cerveau parce qu'on va leur ouvrir le cerveau pour faire une ablation. Alors, 3 semaines avant, on met des électrodes et pendant 3 semaines, on regarde l'activité de la région où on va faire l'ablation pour être sûr de ne pas enlever des régions qui sont trop importantes. Et on a pris parti de patients comme ça pour leur faire jouer à des jeux vidéo dans des environnements virtuels. Puis on a dit juste « promenez-vous dans l'environnement ». Puis on a trouvé des cellules qui avaient tout à fait les caractéristiques chez l'humain des « grid cells ». Donc, on a, nous aussi, donc ça c'est récent aussi, août 2013, on a, nous aussi, dans notre cerveau, ces systèmes-là qui ont été conservés. Puis c'est très, très logique parce que dans notre long passé de chasseurs-cueilleurs, les cerveaux qui étaient probablement moins bien pourvus en grid cells se sont perdus et puis ils ont donné moins de descendants. Alors, on est les descendants de ceux qui se sont retrouvés, finalement. C'est pour ça. Non, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre la sélection naturelle jusqu'à un certain point. Et donc, Edvard Moser avec Buzaki, le type des rythmes, tantôt, ont écrit un article très intéressant en 2013. Puis c'est un peu pour montrer comment le cerveau recycle, finalement. C'était ça l'idée du vieux cerveau. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé... donc, on sait que chez l'humain, avec ces travaux-là, on sait que chez l'humain, l'hippocampe est impliqué dans la navigation spatiale. On sait par ailleurs que l'hippocampe est très impliqué dans la mémoire déclarative, on l'a vu avec le patient HM. Donc, la même structure semble être impliquée dans deux fonctions très différentes. Et aussi, quand on regarde les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, les premiers symptômes, c'est désorientation et puis perte de mémoire. Et on sait le trajet de la dégénérescence dans la maladie d'Alzheimer. Ça commence où? Dans le lobe temporal, exactement au niveau de l'hippocampe. Ça commence dans l'hippocampe, ça fait le lobe temporal, puis ça se répand au lobe frontal, puis dans les stades avancés, c'est partout. Mais donc, ça fit, ça correspond aux données. Et finalement, leur hypothèse dans ce papier-là est très intéressante, c'est que notre mémoire sémantique, là, la mémoire de nos connaissances, elle dériverait de nos capacités de navigation à vue. Parce que nos connaissances, c'est quoi? C'est des concepts hein, qu'on a qui sont reliés entre eux, qui sont plus ou moins proches les uns des autres, un peu comme une carte, la navigation à vue, on voit des indices, puis on peut voir que les choses sont placées. T'sais. Alors que la navigation avec les grid cells, la navigation là, de parcours mental, je vais là-bas, je tourne à 90 degrés, c'est un peu comme notre parcours de vie, c'est un peu comme notre mémoire biographique. J'ai commencé ma vie comme ça, j'ai fait telles études, ensuite j'ai changé d'idée, je m'ai bifurqué, je suis allé plutôt en sciences, ensuite je suis allé en philosophie. Donc, eux autres, ils postulent que c'est les mêmes systèmes de neurones qui processent, si vous voulez, l'information. Et donc, c'est l'hypothèse d'une continuité phylogénétique de la navigation spatiale et de la mémoire chez les mammifères, y compris chez l'humain. Et on voit ici un cerveau de rat avec toutes les structures dont on a parlé, l'hippocampe, le subiculum, le cortex entorhinal. Et on voit que chez le singe, c'est très conservé, les mêmes structures, et chez l'humain aussi. Donc, ça prend moins de place, évidemment, mais c'est là qu'on voit que le cerveau, c'est un bricolage. Hein? On a hérité de structures anciennes, et ces structures-là ont souvent, on dit aussi en anglais le mot « kludge », Kludge, c'est comme une solution optimale, une solution qui n'est pas optimale, justement, mais qui fonctionne. Alors, tu sais, on pense à des poulies, on pense à des choses qu'on arrange avec du duct tape. Tu sais, non, moi, ma meilleure citation, c'est, la meilleure traduction que j'ai trouvée, c'est « patente à gosse ». Notre cerveau, c'est une patente à gosse, mais une patente à gosse qui marche, tu sais. Alors, c'est pour ça que quand le système d'alarme de notre cerveau se dérègle un peu, on va avoir des phobies, par exemple. On va avoir des phobies à quoi? Aux araignées, aux serpents, aux germes, aux hauteurs. On n'aura pas de... Il y a très peu de cas de phobie aux autos puis de phobie aux armes à feu. Pourtant, ça tue énormément plus de monde aujourd'hui. Mais les structures qui se dérèglent ont un vieux câblage qui a été très pratique que ces formes-là sont dangereuses, puis ça peut s'emballer. Ça, c'est un article suite au vote en Écosse sur le référendum. Nos cerveaux ne sont pas construits pour la démocratie, dans le sens où, encore là, les émotions, c'était tellement important chez les humains qu'un leader charismatique va dire quelques phrases à l'emporte-pièce et puis on va voter pour lui au lieu d'aller voir, comme la démocratie le voudrait, les plateformes électorales de chaque parti et comparer rationnellement On ne fait pas ça. On garde la couleur de la cravate durant le débat des chefs, puis on va... Bon, j'exagère un petit peu. Donc, après avoir dit tout ça, comment on peut se caractériser, nous, les humains? Comment on peut, finalement, dire c'est quoi la psychologie d'un individu? C'est fait de quoi? Bien, c'est fait de notre génétique. C'est fait de la longue histoire évolutive qui a mené jusqu'à nous. Et des gènes humains qui se sont façonnés. Nous, on a des gènes humains qui forment un système nerveux humain, avec un cerveau humain. Si on avait des gènes de salamandre, on aurait un système nerveux de salamandre, puis on n'aurait pas les mêmes possibilités, on ne vivrait pas dans le même monde. Puis aussi, on a tous nos apprentissages qui vont, dès le moment où on se développe dans le ventre de notre mère, le système nerveux commence à entendre des sons. Donc, l'environnement va sculpter dans ce système nerveux général-là, vraiment, à partir du début, va sculpter nos expériences de vie. Et donc, un être humain, c'est les deux. C'est vraiment la longue histoire. Et c'est notre biologie et c'est notre culture, c'est les deux. Et Jean-Claude Amezen, qui est un biologiste moléculaire français qui anime une émission, ça c'est un cadeau que je vous fais, là, sur les épaules de Darwin, si vous tapez ça sur Internet, vous allez tomber sur le site de France Inter. Et il y a une centaine d'émissions qu'on peut écouter. Il mélange littérature, philosophie, les derniers articles dans Science, puis en plus, il y a la voix de Philippe Noiret. Donc, ça s'écoute, c'est fabuleux. Et Amezen dit qu'il compare les traces qui se sont accumulées durant l'évolution et qui ont produit la divergence de toutes les espèces qu'on connaît aux traces qui sont laissées dans notre système nerveux par l'apprentissage et qui amène aussi une divergence. Une divergence de quoi? Ben de nous par rapport à la personne qu'on a déjà été. On est constamment en train de diverger de qui on était. Et donc, je trouvais ça beau, ces deux traces-là qui amènent deux types de divergence. Alors, une meilleure métaphore encore pour résumer tout ça, c'est celle du torrent. Ça, je la tiens d'un type qui s'appelle Sébastien Seung, qui est un chercheur au MIT, qui travaille sur le connectome, justement, lui travaille dans les petites synapses. Et il dit, au fond, un torrent, l'eau qui jaillit d'un torrent, elle n'est jamais pareille, elle bouge beaucoup. C'est vraiment comme l'activité du cerveau. C'est jamais pareil, c'est évanescent. Il y a des patterns, hein, des fois, en arrière d'une roche, on va voir un tourbillon. Il y a des patterns reconnaissables, comme il y a des patterns reconnaissables dans le cerveau. Et puis, pourquoi il y a des patterns? Parce que l'eau est contrainte. Elle est contrainte par les roches, elle est contrainte par le lit de la rivière. Et ces contraintes-là, c'est les grandes voies nerveuses de notre cerveau. On a tous un corps calleux, on a tous un thalamus, on a tous des grandes voies qui contraignent l'activité nerveuse. Mais par ailleurs, et donc ça nous vient de notre évolution. Par ailleurs, si on prend un laps de temps plus long, par exemple 100 ans, au bout de 100 ans, là, le ruisseau il est modifié. L'eau a érodé les rives, l'eau a grugé les roches. Donc, l'activité nerveuse sculpte le lit de la rivière, donc modifie le substrat même qui permet à cette activité nerveuse-là de se promener. Donc là, c'est ça, le vieux débat nature-culture, il s'évanouit de lui-même. Hein? On est 100% un être de nature et 100% un être de culture, c'est indissociable. Là, je pense que ça fait comme 55 minutes que je parle. Je peux arrêter là. Je peux parler 5 minutes encore. Je peux parler 10 minutes. Oui, encore un petit 5-10 minutes. Bon, on va finir le spectacle. Là. Vous êtes bien aimables. Mais après, ça sera le fun d'échanger. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Donc là, je vais vous parler un peu d'un domaine là, de recherche en sciences cognitives qui est de plus en plus important, qu'on appelle un peu la cognition incarnée. Hein. C'est le fait qu'on s'est rendu compte que, finalement, le cerveau, ça ne flotte pas dans un éther, hein, c'est dans un corps. Puis ça a des liens intimes avec le corps. Puis ce corps-là, puis ce cerveau-là qui forme un tout, c'est toujours situé dans un environnement. Fait que quand on pense, on est toujours influencé par le corps qu'on a puis un peu par l'environnement où on se trouve. Bon, ça, c'est un des nombreux livres d'Amasio, hein, L'erreur de Descartes. Je vais vous raconter deux, trois petites histoires. qui mettent en évidence ce que je veux vous présenter. On vous convoque pour... vous faites partie d'une expérience. Hein? Le but de l'expérience, c'est de caractériser des personnages qui sont décrits en deux, trois lignes. Est-ce que les personnages sont sympathiques, chaleureux, ou est-ce qu'ils sont plutôt froids ou antipathiques? Quand vous arrivez dans le bureau du chercheur ou de la chercheuse, elle tient un pad avec des feuilles pour vous inscrire et une tasse dans sa main. Elle vous dit « Pouvez-vous tenir ma tasse le temps que je vous inscrive? » Alors, vous la tenez. Et pour la moitié des gens, c'est du café chaud. Et pour l'autre moitié, c'est du thé froid. La personne la tient 2 minutes, la tasse. Après, elle cote les personnages, chaleureux, froid. En moyenne, ceux qui ont tenu la tasse chaude vont coter les personnages comme beaucoup plus chaleureux que les gens qui ont tenu la tasse de thé froid, qui vont dire sont plutôt froids, antipathiques. C'est significativement différent. On vous divise en deux ici. Je vous dis, vous, là, rappelez-vous un moment dans votre vie où vous avez été exclu, où vous avez été vraiment poche, comme on dit. Bon. Puis vous, un moment où vous avez été winner. Là, t'sais. Puis ensuite, je vous demande, combien il fait dans la pièce d'après vous? Bien, les gens qui se sont rappelés des souvenirs d'exclusion vont sous-évaluer la température de 2-3 degrés, puis les gens qui se pensent, qui sont rappelés un moment glorieux, vont la surévaluer de 2-3 degrés la température de la pièce. Ah, il y en a plein. Évaluer des devises étrangères, on vous donne encore un pad, mais la moitié du monde reçoit un pad qui est lourd, puis l'autre moitié un pad qui est léger. Puis on vous demande un euro, ça vaut combien de dollars? Un yen, ça vaut combien de dollars? Ceux qui ont le pad lourd vont surévaluer les devises, puis ceux qui ont le pad léger vont les sous-évaluer. Donc, je vais pas toutes les passer, il y en a plein. C'est juste pour dire que cette idée-là, quand je demandais aussi, j'avais fait un petit sondage, quels sont les trois premiers mots qui viennent à l'esprit quand on dit le mot « cerveau »? Alors là, j'ai mis les fontes là, proportionnellement à la fréquence des réponses. Alors, qu'est-ce qui sort cerveau? C'est l'intelligence, c'est la pensée, la réflexion, tu sais. Tous des mots abstraits, finalement. Mais c'est pas ça, là. L'idée d'une raison qui fonctionnerait de façon indépendante du corps, ça tient plus la route. Donc, un neuromythe à oublier, c'est le dualisme cartésien avec tous ces avatars qu'on peut imaginer. On n'a qu'à penser à d'autres espèces animales. Hein. L'abeille qui voit dans l'ultraviolet... elle pense sûrement pas comme nous. La chauve-souris qui s'oriente par écholocation. Il y a un article célèbre d'un philosophe en 1974, Nagel, qui avait écrit un article en philosophie qui s'appelait « Quel effet ça fait d'être une chauve-souris? » Mais nous, on ne saura jamais quel effet ça fait d'être une chauve-souris. Pour savoir l'effet que ça fait d'être une chauve-souris, il faut être une chauve-souris. Donc, c'est l'idée aussi de cette séparation-là aussi, des affaires un peu plus subtiles, c'est qu'on a souvent dit que les neurotransmetteurs, c'était dans le cerveau, hein, comme je vous l'ai présenté. Puis dans le corps, bien, on avait des hormones hein, qui permettaient d'agir à distance sur d'autres organes. Mais même ça, cette séparation-là, elle ne tient plus vraiment la route. Ce qu'on appelle la neuroendocrinologie a montré dans les années 70 qu'il y a plein de neurotransmetteurs qui s'en vont dans le sang, puis qui influence les organes, puis il y a plein d'hormones qui ont des récepteurs sur des neurones dans le cerveau. On parle plus des fois de neurohormones. La même substance, autant, je ne sais pas moi, la vasopressine qui sert de neurotransmetteur dans le cerveau est sécrétée directement dans le sang par l'hypophyse. Même... Hein? Le cortisol, c'est ça. Il y a des récepteurs au cortisol sur les neurones de l'hippocampe. Je vais en parler d'ailleurs du cortisol dans un instant. Bon, passons ça. Arrivons à un exemple concret, le stress. Vous percevez un stress menaçant. Tout de suite, il y a une réaction du système sympathique qui prépare à l'action. Les pupilles se dilatent. Et aussi, il y a des hormones, le CRH, la CTH, qui disent au surrénal de produire l'adrénaline, mais de produire aussi des glucocorticoïdes, du cortisol. Et là, donc, si vous pouvez fuir, c'est bien, le stress va se résoudre, vous allez avoir eu la force possible pour fuir. Si vous avez à combattre un mammouth, puis ça, c'est la mascotte du Centre d'études sur le stress humain à Montréal, avec le docteur Sonia Lupien, je suis très content quand j'ai vu que leur mascotte, c'est un mammouth, pour rappeler que ce sont des mécanismes très anciens. Donc, si on lutte aussi, on détruit la source d'agression, le stress, on revient à la normale, tout va bien. Le problème vient quand on ne peut ni fuir ni lutter. Et dans nos vies modernes, dans nos jobs, hein, on arrive des fois qu'on a des frustrations, puis on a un petit boss qui ne nous revient pas, et puis on ne peut pas fuir notre job, et puis on ne peut pas l'étrangler parce que bon, on aurait des ennuis avec la police, puis tout ça. Alors, on reste inhibé. On reste inhibé dans notre action et c'est là où, quand ce système-là se met en place, là, il déprime le système immunitaire parce que quand ta vie est en jeu, là, quand tu as un gros agresseur devant toi, c'est pas le temps de donner des ressources au système immunitaire ou à la digestion, on s'entend. Hein? On va crever ou on va s'en sortir. Mais le problème, c'est quand on reste en stress chronique pendant longtemps, le système immunitaire, lui, il va rester déprimé pendant longtemps parce que ton taux de cortisol est élevé pendant longtemps. Et c'est ça la différence entre le stress aigu et le stress chronique, ce que Henri Laborie appelait l'inhibition de l'action. Laborie, hein, qui avait continué les travaux de Cellier, Anne Cellier qui a fait la promotion du mot stress. Et toutes nos maladies dites de civilisation, souvent hypertension, ulcère, tout ça, c'est des maladies qui proviennent un peu de ce système-là. Et c'est tout le domaine de la psychoneuro-immunologie. Hein. On sait maintenant donc qu'il y a des liens entre le système immunitaire, donc le corps et le cerveau. Et j'en ai parlé dans le blog. Hein. Le cerveau à tous les niveaux, sur la page d'accueil, il y a un blog qui est comme inclus juste en dessous. Puis à chaque lundi, je résume une étude récente. Puis là, j'avais parlé de ça à un moment donné. Bon, entre le corps et le cerveau, il y a aussi des effets. Il n'y a pas juste des effets négatifs, il y a des effets positifs. Hein. L'effet placebo, c'est un exemple où on pense que dans une pilule, il y a un médicament, puis juste le fait de prendre une pilule de sucre, on va aller mieux. On va se convaincre, on va faire une espèce d'auto-tromperie. Par exemple, avec la douleur, l'effet placebo, ça marche beaucoup. Probablement parce que ça met en jeu d'une façon autonome notre système d'endorphines. Hein. On a un système antidouleur naturel dans le corps qui fonctionne avec les endorphines, et puis on suspecte que c'est ça qui est mis en jeu. Vous irez voir dans le cerveau à tous les niveaux, là, j'ai beaucoup de détails là-dessus. Et donc, ouais, on peut s'acheminer vers quelque chose qui ressemble à une fin dans quelques diapos. Donc, l'idée que le cerveau fonctionne indépendamment du corps, non. Pas plus que l'idée que tout ce qui se passe dans le cerveau, c'est toujours conscient. La plupart des choses qu'on fait dans une journée, c'est inconscient. 90% des choses qu'on fait, on n'y pense pas, on les fait. On est complètement... vous êtes arrivé ici, vous m'avez attendu, c'était long, vous avez parlé, vous avez échangé, vous avez utilisé des mots qui sortent tout seuls. La conscience, c'est souvent la pointe de l'iceberg, pour employer cette bonne vieille métaphore, et la majorité de l'activité cérébrale est inconsciente. Inconsciente, pas au sens freudien de refouler, mais simplement au sens automatisé. Au sens cognitif de l'inconscient, c'est modulaire, la perception, tout se fait d'une façon automatique. Il y en a qui, on ne rentre pas dans les détails, qui distinguent préconscient de conscient, par exemple avec les perceptions visuelles, les travaux de Dehaene, échangeux, montrent qu'il y a un stade qu'on peut appeler préconscient, où il y a un petit peu plus d'activation qu'au stade subliminal. Et ce qui arrive au niveau conscient, quand on perçoit consciemment une image, là, quand on flash des images, là, un dixième de seconde, on ne la voit pas, puis à un moment donné, trois dixièmes de seconde, on dit « Ah, je l'ai vu ». Mais quand on dit « je l'ai vu », ce n'est pas juste un petit peu d'activité qu'il y a eu dans le cerveau, c'est que tout d'un coup, il y a de vastes régions qui se sont activées. Donc, la conscience implique de vastes régions dans le cerveau. C'est ce qu'on montre un peu ici. Et puis, on peut des fois, les modèles montrent ça, qu'on peut, quand on a un stimulus qui serait préconscient, on peut, en se focussant, en se concentrant, peut-être aller chercher un peu, en focussant notre attention, on peut aller chercher du préconscient, puis peut-être le rendre conscient d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle le contrôle top-down, hein, le contrôle qui part d'en haut, puis qui va chercher des choses dans l'environnement par opposition à tout ce qui est, en anglais, « bottom-up », hein, tout ce qui est les gros stimulus de l'environnement, un gros bruit ou une grosse lumière qui nous rentre dedans, on n'a pas le choix de le voir, ça nous rentre dedans. Mais on peut aussi, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce petit test-là, on doit compter les passes. Qui le connaît? Oui, OK. Bon, je vais vous l'expliquer, on n'a pas le temps de le faire, mais le défi, c'est de compter les passes que se font les joueurs en blanc. Donc, ils font du basket, mais le problème, c'est qu'il y en a en noir qui se font aussi des passes, fait que c'est bien mélangeant. Ça dure comme une minute, tu comptes les passes, puis tu te concentres sur les blancs. Puis à un moment donné, il y a ça qui rentre, quelqu'un habillé en gorille, il fait ça comme ça, puis il sort, puis la moitié du monde ne le voit pas. Puis ceux qui l'ont vu, là, qui vous pensez bon, là, bien, il y a une version 2.0 qui a été faite. Je vais mettre la présentation sur le site Le cerveau à tout le niveau dans quelques jours. Fait que tous ces liens-là, vous allez pouvoir les consulter dans la section présentation. Vous allez tous retrouver le show de ce soir. Et puis, vous irez faire la version 2.0 si vous vous pensez bon avec le gorille. Là.
Si tu penses bon avec le gorille, il faudrait voir ceux qui ont vu le gorille, comment ils ont scoré à compter les passes aussi.
Ouais, oui, probablement qu'ils ont perdu quelques passes au moment. Ouais. Je ne veux pas abuser. Là, je pense que ça fait. J'arrêterai là, en fait. Ça pourrait continuer longtemps, hein, je vous l'ai dit. 15 heures, moi, c'est mon format. Je sais pas. Non, là, je m'en allais dans. J'avais pris des trucs sur le libre arbitre. Je voulais être un peu controversé. Là. J'ai fait une. Ben, ça, vous irez la lire. Elle est au complet sur le site. Neurosciences et libre arbitre. Qu'est-ce que les neurosciences ont à dire sur cette vaste question? Je vous dis tout de suite, vous allez être déçus, on ne la règle pas complètement. Mais il y a des choses intéressantes qui se disent. Puis ma finale, ben, c'était un peu de rappeler cette citation de Laborie qui disait que dans le fond, chaque heure passée par un enfant sur un banc d'école devrait commencer par définir la structure de ce qui va être dit dans les structures d'ensemble, hein, parce que les connaissances sont souvent présentées par petits morceaux. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en place un vaste cadre par niveau d'organisation, voir comment chaque niveau s'emboîte. C'est ce que j'essaie de faire avec le site Le cerveau à tous les niveaux. Et puis, ben, ça, c'est un petit scoop. Il y a 2-3 semaines, j'ai lancé un site web autour d'Henri Laborie parce qu'il m'a beaucoup influencé par rapport au cerveau à tous les niveaux. Hein. L'idée des niveaux d'organisation, c'est un des précurseurs dans les années 60. Puis moi, je l'ai lu au début de la vingtaine. Puis ça m'a toujours... Et puis, il n'y avait rien sur Internet qui parlait vraiment, lui, d'une façon un peu systématique. Donc, vous irez voir ça si ça vous intéresse. Éloge de la suite, ça s'appelle. Voilà. Et Laborie qui disait, « Tant qu'on n'aura pas diffusé très largement à travers les êtres humains de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, et tant qu'on n'aura pas dit que cela a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit qui change. » Donc, c'est un peu ça. Mon oncle d'Amérique montre bien ça. Tous ces gens-là que vous voyez ici, c'est cette merveilleuse... J'aime bien cette image. Hein? Je trouve que ça résume tellement bien le monde actuel. Et tous ces gens-là, c'est dur à croire, mais tous ces gens-là ont l'objet le plus complexe de l'univers connu entre les deux oreilles. Et puis, on devrait en prendre le plus grand soin. Je vous remercie beaucoup.